Salut, c'est Thomas Rozek. Si on fait abstraction de mon goût immodéré pour les chemises à motif Liberty, je suis pas à proprement parler un passionné de la mode. Je ne regarde que d'un œil distrait et lointain les tendances, les nouveautés, les incontournables du moment. Un œil distrait certes, mais bienveillant, car il y a quelque chose de fascinant dans la passion et l'investissement tant mental que pécunier que beaucoup d'entre nous déploient lorsqu'il s'agit de fringues. C'est d'autant plus vrai que notre époque a érigé la scénarisation de sa propre image en valeur de premier plan. Il suffit de passer quelques minutes sur Instagram pour s'en convaincre. Tout ça nous a donné envie de nous interroger. Qui décide de la mode? Aloïs Guinu s'est posé la question pour nous et c'est son reportage réalisé par Quentin Bresson qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Au début, vous n'avez pas prêté attention. En feuilletant un magazine, vous avez aperçu une paire de baskets surdimensionnées, dans le genre montée sur gonfleur et saturée de couleurs. Vous voyez desquelles je parle? Vous les avez trouvées un peu moches d'ailleurs. Quelques semaines plus tard, vous en avez aperçu une paire dans le métro, au pied d'une personne qui avait tout à fait l'air d'être à la pointe de la mode. Puis en scrollant sur Insta, vous avez remarqué que les cool kids n'avaient plus que ça au pied. Et vous avez commencé à en voir partout. Dans les vitrines des magasins branchés, dans les bacs de la fast fashion, au pied de votre collègue de bureau tellement stylé. De plus en plus, partout, partout, partout. Finalement, vous les trouvez plus si moches. Limite, ça vous tenterait. Elles coûtent combien d'ailleurs, celles-ci? Ça y est, vous êtes atteint. Maintenant, c'est certain, c'est bien une tendance. Moi, les tendances vestimentaires, je les fréquente au quotidien. Je m'appelle Aloïs Guinu et je travaille depuis 5 ans comme styliste personnelle. Mon métier consiste à aiguiller les personnes dans leur manière de s'habiller. Que ce soit pour des tenues du quotidien, pour de grandes occasions ou pour organiser le contenu de leur garde-robe, elles s'en remettent à mon expertise pour les aider dans cette tâche. Un peu comme on ferait appel à un décorateur. Je travaille majoritairement avec des femmes françaises ou étrangères. Les Américaines sont particulièrement désireuses de savoir quelles sont les tendances du moment.
« Is this a style now ?»
est une de leurs questions favorites. Les Françaises plus défiantes sont surtout soucieuses de savoir si elles peuvent porter la tendance sans être ridicules ou pas à leur avantage. Quelle que soit leur nationalité, ces femmes aspirent à avoir un look moderne qui les mette en valeur et reflète leur personnalité. Mais face à l'offre pléthorique des magasins, certaines se sentent désemparées, perdues au milieu des tendances. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est au juste une tendance de mode? Je suis allée poser la question à Mélodie Thomas, journaliste au magazine féminin Marie-Claire, qui donne un cours d'actualité des tendances à l'Institut français de la mode.
Pour moi aujourd'hui, une tendance, ça n'a pas beaucoup changé par rapport au début de la mode. C'est toujours marqué par la saisonnalité. Donc c'est vraiment, on va remarquer un épiphénomène pendant lequel une pièce ou un style vestimentaire va être mis en avant et puis s'interrompre rapidement. Il y a une multitude de tendances. Je pense que si on regarde, ça fait déjà un moment que c'est le cas. Il y a eu les mouvements et donc les tendances qui en ont découlé, grunge, punk, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on peut par contre dire que ça s'est accéléré et on peut retrouver sur un même défilé différentes inspirations. On est vraiment dans un éclectisme vestimentaire aujourd'hui et plus simplement dans une époque, un mouvement. On le remarque par exemple avec Gucci qui le fait très bien et sur une collection on va retrouver des inspirations qui viennent autant des années 70 que des années 80 ou 90.
Est-ce qu'on suit tous les tendances ou est-ce qu'il est possible d'échapper aux tendances?
Je pense qu'on a tous en tête ce passage du Diable s'habille en Prada où Meryl Streep qui interprète Miranda Presley raconte un peu le circuit que suit une tendance ou un vêtement, notamment à travers la couleur bleue, qui passe de l'esprit du créateur au défilé avant d'atterrir dans les magasins de luxe, puis enfin dans les marques de fast fashion. Donc même les gens qui ne s'intéressent pas à la mode finalement y contribuent malgré tout. Aujourd'hui, je pense que c'est malgré tout un peu plus circulaire. On le remarque par exemple avec un Dagmar Vassalia chez Balenciaga qui ne va pas hésiter à s'inspirer de choses qui sont vraiment prosaïques auxquelles les gens ne considèrent pas comme étant de la mode. C'est le cas du sac Ikea, c'est le cas du t-shirt DHL qu'il faisait pour vêtements.
Vous l'avez entendu, Mélodie, c'est une pro de la mode. On parle le même langage, on a les mêmes références. Mais vous qui nous écoutez, peut-être êtes-vous néophyte en matière de mode? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de Demnia grâce à quoi d'ailleurs? Eh bien, celui qui a fait défiler les premières grosses baskets au printemps 2017, alors qu'il était directeur artistique de Balenciaga depuis 2 ans. C'est celle dont je vous parlais en intro. Leur nom de code? Les triple S. Il y a 2 ans, elles coûtaient la modique somme de 700 € et on ne les voyait qu'au pied d'Happy Few habitués des Fashion Week. 2 ans plus tard, elles sont partout. Et clairement, ça ne vous a pas échappé, que vous vous intéressiez ou non à la mode. Quand je suis allée me balader dans les rues de Paris pour demander à des passants et passantes de tous âges quelles étaient les tendances actuelles, la sneaker gonflée aux EGM était citée 2 fois sur 3.
Ah si, il y a les baskets là, non? Tout le monde met des baskets un peu comme s'ils allaient courir le matin.
Des grosses baskets que les grandes marques essayent de développer comme Sandro.
Ce sont vraiment des grosses baskets avec les chaussettes très apparentes qui remontent.
Je vois pas mal des tendances de jeans déchirés par exemple, très étroits. Avec des baskets Balenciaga, que c'est des petites baskets que tout le monde met comme des chaussons.
Ouais, pas mal de grosses baskets aussi, mais elles font un peu retour vers le futur.
Les chaussures, bah, ce sont les baskets, ouais, malheureusement.
Effectivement. Les baskets, c'est bien joli tout ça, mais on n'est pas sur un revival Jardin d'Éden.
Après, bah, le Free the Nipples, super, moi j'adore.
Selon leur sensibilité personnelle, leur âge et leur milieu, les personnes que j'ai interrogées m'ont évoqué une multitude de tendances.
C'est un peu compliqué comme question, mais... Alors, des tendances. Des jeans assez larges avec une taille très haute, donc des tailles très marquées, mais avec des hanches qui sont beaucoup plus larges que moi je trouve pas très gracieux, mais bon, peu importe.
Ils ont repéré des formes.
Le jean mom pour les filles maintenant, le jean slim pas du tout confortable, donc jean mom super.
Niveau pantalon, pattes d'éléphant, il y en a de plus en plus.
Des époques.
Il y a un peu tout mélangé, les années 80.
On va dire un retour en arrière, un petit peu dans les années un petit peu 90.
Retour du sporty. Année 2000, sportswear avec des marques que j'avais pas vues depuis le collège.
Le style un peu urbain, il revient beaucoup à la mode, même pas forcément en fait, à la différence d'avant en fait, où c'était vraiment dans les milieux urbains où les gens s'habillaient de façon urbaine. Là, on peut trouver par exemple dans des quartiers plutôt chics de Paris des gens habillés avec des vêtements urbains.
Alors, les tendances du moment, je dirais que c'est un peu vintage, old school.
Des couleurs et des imprimés.
Beaucoup de motifs fleuris, de rouge, des couleurs assez vives, peps très acidulées.
Les gens, ils essaient de sortir un peu du moule, du gris, du blanc et du noir pour quelque chose d'un peu plus coloré. Du violet, de l'orange, du jaune.
Du noir, du blanc, enfin des couleurs un peu neutres.
Sur moi, ce qui serait tendance et ce qui serait sûrement à la mode en ce moment, c'est la banane.
Les sacs tout transparents dans lesquels on voit toutes tes affaires, ça je ne comprends pas trop.
Bah, je suis forcément les tendances parce que ceux qui disent qu'ils suivent pas les tendances, ils s'habillent chez Zara et en fait ils suivent quand même les tendances. Donc en fait, je suis à tendance mais inconsciemment.
Ces tendances auxquelles nul individu faisant l'achat de vêtements manufacturés ne semble pouvoir échapper. Dans la scène du diable s'habille en Prada, évoquée par Mélodie Thomas,
something funny.
Meryl Streep, qui joue un avatar de la directrice du Vogue US, affirme que ce sont les créateurs qui sont à l'origine, citant l'exemple du bleu céruléen créé par Oscar de la Renta.
Okay, I see. You think this has nothing to do with you.
Est-ce si simple ? Je suis allée à la rencontre de Coralie Marabel, créatrice de sa marque éponyme. Dans son petit atelier du Marais, je lui ai demandé d'où elle tirait son inspiration.
Moi, je m'inspire de beaucoup de choses. Je pense que j'ai un peu l'impression d'être une éponge, en fait, qui va absorber tout ce qu'il y a autour d'elle. Je fais beaucoup d'expositions, je fais beaucoup de tout ce qu'il y a dans l'art. Je vais beaucoup dans la rue, j'aime beaucoup observer les gens. Je vais dans beaucoup d'endroits de centres culturels. Dimanche, j'étais au 104. Enfin, voilà, je vais voir beaucoup de spectacles de danse, de enfin, vraiment, je lis, je regarde les magazines. Je suis vraiment très curieuse. Je pense que c'est une des premières caractéristiques qu'il faut avoir pour être à l'écoute des tendances. Je m'inspire un peu de tout ce qui m'entoure. Je suis très curieuse, j'observe, j'analyse, c'est des rencontres. Et en fait, au fur et à mesure, ça peut être une rencontre, une image, quelqu'un que je vais voir dans la rue. Ça peut être un objet, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une couleur. Il y a quelque chose qui va devenir une obsession. Et c'est ça qui va devenir le point de départ de ma collection et le fil rouge de la collection que je vais développer.
Du coup, en étant une éponge de ce qui vous entoure, donc moi, j'ai regardé vos collections. Alors, c'est très marqué de votre patte à vous, Coralie Marabel. Et en même temps, on trouve des marqueurs de l'air du temps, donc celui que vous absorbez, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez, au final, suivre les tendances, ou au moins suivre des tendances ?
Alors, je pense que je ne suis pas des tendances, comme on peut l'imaginer au premier degré, dans ce qu'on voit dans les magazines, etc. Mais je suis très à l'écoute de ce qu'il y a dans l'air du temps et de ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe là où je vis. Je vais sentir ce qui se passe et je vais le digérer à ma manière et l'interpréter à ma manière. Et dans mes créations, ça va se ressentir. En tout cas, vous avez créé voilà, ce trench long, bicolore, très graphique, avec une ceinture orange. Et en fait, la forme de ce trench, c'est quelque chose que, pour moi, on voit là, partout dans la rue. Et j'aurais voulu savoir comment vous était venue l'idée de ce trench en particulier.
Le trench, il faisait partie d'une collection qui était inspirée d'une artiste allemande qui s'appelle Alexandra Birken. Et j'avais vu une exposition de son travail dans un centre d'art contemporain en banlieue parisienne, une toute petite exposition, et qui m'avait extrêmement marquée, qui m'avait beaucoup touchée, et j'avais adoré. Et il y avait dans son travail beaucoup d'orange, d'où la ceinture orange. Il y avait quelque chose aussi dans son travail de très brutal. Il y avait notamment des motos découpées en deux, il y avait beaucoup de choses découpées. Et donc, en fait, moi, j'ai un peu retravaillé mon trench de façon assez marquée, assez brutale aussi, en le faisant bicolore, la moitié bleue, la moitié beige. Et j'avais envie de quelque chose de très, très bold, comme on dit en anglais. J'ai pas vraiment le mot adéquat en français. Mais audacieux, quelque chose de fort, un vrai parti pris, quelque chose de très graphique. J'aime bien les choses très graphiques.
Au final, qu'est-ce que ce serait une tendance pour vous ?
Bah, pour moi, une tendance, c'est le résultat de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. C'est plein de petites choses, les unes accrochées aux autres, qui vont générer une tendance, qui vont générer une direction.
Pensez-vous, en tant que créatrice, que vous pouvez être à l'origine d'une tendance ou plutôt que vous vous inscrivez dans un courant et que vous y apportez votre pierre à l'édifice ?
Alors, je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt un travail collectif. Je pense que ma manière d'interpréter quelque chose, on va aussi le retrouver chez d'autres gens, chez d'autres artistes, chez d'autres créateurs, et c'est l'accumulation de ces choses qui va générer la tendance. Par exemple, pour ma collection automne-hiver 2017, je m'étais inspirée du photographe malien Sedou Keïta, qui avait fait une magnifique exposition au Grand Palais, et c'est des photographies en noir et blanc de Bamako dans les années 70 que j'adore. Et j'ai fait toute ma collection là-dessus. C'était une collection très graphique, beaucoup de noir et blanc, et j'avais notamment l'imprimé du damier noir et blanc, que j'avais traité notamment sur une doudoune. J'avais fait un travail textile aussi autour du damier. Enfin, j'avais vraiment travaillé le damier noir et blanc à fond. Et il s'est avéré que 6 mois après, il y a une autre marque anglaise beaucoup plus connue que moi qui a fait aussi sa collection sur le même thème. Et après, plein d'autres marques, mais tout le monde s'est mis à faire du damier. C'est pas moi qui suis à l'initiative du damier, mais c'est juste qu'on est plusieurs à avoir été sensibles au damier, et on l'a interprété à notre manière, et peut-être que ça venait du même photographe, peut-être que ça venait d'autres choses, mais en tout cas il y a eu quelque chose, et je pense que c'est soit cet artiste qui a beaucoup inspiré beaucoup de créateurs, et ou c'est d'autres gens qui ont été sensibles à mon travail, à celui d'autres créateurs, et petit à petit ça fait une grosse tendance sur le damier.
Alors du coup, bon, ça c'est vraiment une question rhétorique parce que je sais ce que vous allez me répondre, mais il y a beaucoup dans l'imaginaire collectif. On connaît l'existence des bureaux de tendance, des fameux bureaux de tendance. Et à la question « qui crée les tendances ?», certaines personnes ont l'impression qu'il y a des espèces de gourous cachés qui tirent tous les fils. Vous, en tant que créatrice, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais que vous avez travaillé dans d'autres maisons de couture avant. Maintenant, vous travaillez à votre compte. Est-ce que vous avez déjà fait appel à un bureau de tendance, que ce soit pour vous, ou entendu parler de ce phénomène au sein d'une des maisons de couture pour lesquelles vous avez travaillé avant ?
Alors, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Moi, je n'ai jamais travaillé avec un bureau de tendance, et ça ne risque pas d'arriver parce que je fais un peu le même travail qu'un bureau de tendance, c'est que je suis moi-même en veille, en train d'analyser ce qu'il y a autour de moi, en train d'observer, donc j'ai pas du tout besoin de faire appel à un bureau de tendance. Et dans les maisons de luxe où j'ai travaillé avant, jamais j'ai vu un cahier de tendance, en fait, parce que quand c'est des maisons, parce que j'étais dans des maisons j'étais chez Hermès, Alexander McQueen, Martin Margiela, c'est des grandes maisons de couture où, avec des gros laboratoires créatifs, avec des grosses équipes de designers, donc on déborde d'idées, on est là pour analyser, observer, créer, et on n'a pas du tout besoin de carnet de tendance. Limite, on a beaucoup trop d'idées, on n'a pas besoin d'aller en chercher ailleurs. Les carnets de tendance, c'est vraiment plus destiné à des marques beaucoup plus commerciales, qui n'ont pas de laboratoire, d'équipe de designers ou de créatifs en interne, qui n'ont pas de directeur artistique, et qui justement ont besoin d'avoir ce travail fait par un bureau de tendance.
Si les bureaux de tendance ne créent pas de tendance, mais alors que font-ils ? Je suis allée poser quelques questions à Maïen Guyenne, directrice de style du bureau parisien Péclairs. Et pour commencer,
je lui ai demandé sa définition du concept de tendance.
Alors pour moi, une tendance, c'est, je dirais, un ensemble de comportements, d'attitudes, de goûts partagés par des consommateurs, parce qu'on parle toujours quand même un peu de conso, quoi. Voilà, c'est un ensemble, c'est des goûts partagés qui se, du coup, créent une sorte de mouvement. Qu'on discerne, et nous ce qu'on fait ici chez Pecler, c'est qu'on essaye de donner du sens à voilà, tous ces éléments communs et en dégager ce qu'on appelle une tendance. Alors d'abord, je pense que c'est important de faire la distinction entre deux types de tendances. Il y a les tendances de fond, c'est-à-dire celles qui vont durer pendant plusieurs saisons, voire plusieurs années. C'est des choses qui se sont inscrites et qui vont même signer une époque, qui donne vraiment le goût du moment, l'esprit du temps. Et il y a les tendances beaucoup plus éphémères, qui sont des choses voilà, qu'on détecte très rapidement, parce que je pense que finalement, les gens que vous avez rencontrés dans la rue, c'est ça qu'ils vous ont dit. Ils vous ont dit des choses qui sont visibles immédiatement. Ça, c'est un deuxième type de tendance. Donc, on peut parler des deux, mais moi, je trouve que les tendances de fond sont plus intéressantes. Les tendances de fond, d'un point de vue mode, je dirais, par exemple, le workwear, c'est-à-dire toute cette tendance autour du vêtement de travail qui est hyper forte et qui maintenant est devenue presque un vestiaire, un uniforme. On s'en rend même plus compte. Ne serait-ce que le denim, par exemple, c'est quelque chose qui est inspiré du vêtement de travail et c'est devenu notre uniforme. Tout ce qui va autour des vestes Carhartt, des pantalons de charpentier, de la combinaison, le grand phénomène autour de la combinaison qui est devenu maintenant quelque chose d'un incontournable en fait dans les collections de mode. Ça aussi, ça fait partie du workwear. Il y a tout ce qui est autour du romantique, de la lingerie, du boudoir, qui, alors on peut le nommer différemment, mais voilà, il y a tout cet esprit-là, très fluide, tout ce qui était autour des nuisettes, des vêtements fluides, du peignoir, du kimono, du pyjama. Voilà, tout ça c'est quelque chose de, si je dirais, important et de fond, et qu'on voit évoluer, en fait, au fur et à mesure des saisons. Donc, ça disparaît jamais vraiment. C'est là, ça se modifie, ça prend différentes formes selon les créateurs, selon les saisons. Et puis, alors, il y en a d'autres, mais une qui est très importante aussi et qui me plaît bien aussi, c'est tout ce qui est autour de l'historique, du vêtement historique, du costume, les manches bouffantes, les collerettes, les volants, en fait, voilà, les incrustations de dentelle, tout ça, donc qui vraiment nous rappelle le vêtement historique.
Alors, je trouve ça tout à fait intéressant. Moi, en tant que professionnelle de la mode, j'ai remarqué effectivement ces tendances que vous venez de me citer, ces tendances de fond, et je vois à quoi elles se raccrochent visuellement et concrètement. Mais alors, je vous le dis tout de suite, et j'ai interviewé beaucoup de personnes comme ça en micro-trottoir. Allez, une personne sur deux, voire deux sur trois que j'ai interviewée m'a parlé grosses baskets. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ces grosses baskets ?
Alors, effectivement, ça se raccroche pas forcément aux trois tendances que j'ai évoquées, mais ça peut se raccrocher à une autre tendance de fond assez intéressante et qui est là depuis, pareil, qui évolue quand même depuis quelques années, je dirais. Il y a d'abord le sport, hein, parce que du coup la basket est devenue la nouvelle chaussure de base, et puis le fait qu'elle soit énorme à ce point-là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui va autour de une envie d'exubérance, d'extravagance. D'un côté, c'est-à-dire d'un côté on avait tout ce côté un peu low profile, minimaliste, etc. Et puis après il y a vraiment cette envie de s'exprimer, se mettre en avant, voilà. Donc il y a ce côté-là. Je pense que ça veut, pour moi les grosses baskets, c'est aussi rattaché à presque une forme d'hybridation. C'est-à-dire voilà, presque un côté futuriste où on est dans une période d'incertitude et donc on se dit voilà, il faut que je sois on ne sait pas comment le genre humain va évoluer, il y a presque quelque chose de l'ordre de la prothèse. Et puis il y a un côté presque survivor dans ses baskets, et elles sont un peu tout terrain. C'est des baskets qui sont là pour arpenter la ville, arpenter le monde, arpenter peut-être une planète inconnue. Il y a quelque chose d'assez futuriste en fait dans ces baskets. Après, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je pense que ça va s'estomper hein, quelque part, parce que là on est quand même au summum de la grosse basket, mais c'est pas inintéressant. Après, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était dans les années 2000, il y avait vraiment cette mode des grosses baskets un peu différentes, toutes les Skechers, etc., qui sont vachement revenues. Bon, voilà, là aussi, on avait ce truc de pied très, très imposant. Voilà, c'est intéressant aussi, je divague un peu, mais c'est intéressant aussi parce que je trouve que du coup, ça montre un nouveau rapport au corps où les proportions ont changé, en fait. C'est-à-dire, tout d'un coup, on focalise sur les pieds, on est dans des volumes beaucoup plus larges, on n'est plus dans les mêmes critères esthétiques de valorisation du corps. Les tendances éphémères, ces tendances qu'on voit dans la rue... J'ai envie de dire, non, c'est pas les bureaux de tendance qui les créent. Ça, le fait que les bureaux de tendance créent les tendances, c'était quelque chose qui pouvait avoir quelque chose de vrai au départ, c'est-à-dire au moment où les bureaux de tendance sont apparus. Donc, non, c'est pas les bureaux de tendance qui créent les tendances. En revanche, ce que les bureaux de tendance font, c'est qu'ils arrivent à décrypter ce qui se passe globalement. Donc, ça va être dans la rue, ça va être au niveau local, au niveau international aussi. C'est-à-dire qu'on fait aussi de la veille, on regarde ce qui se passe, que les gens portent dans la rue, on regarde ce que les Instagram évidemment a énormément changé, notre métier a énormément changé, je dirais l'équilibre ou le jeu de pouvoir qu'il y a dans les prescripteurs de tendances et ceux qui suivent. Je pense que les tendances, elles viennent d'abord de la rue et qu'ensuite ce sont les stylistes, les créatifs qui eux s'imprègnent de tout ça, parce que c'est ça, quand on est créatif, on s'imprègne de la rue, on s'imprègne des expos qu'on voit, on s'imprègne de la musique qu'on écoute, on s'imprègne de la vie, quoi. Et ça, voilà, ça en résulte, c'est ce qui résulte. Des grosses baskets, par exemple.
Alors, du coup, là, vous me dites que les stylistes, comme vous, en tant que personne qui travaille dans un bureau de tendance, s'imprègnent de l'air du temps, en définitive. Mais si c'est le cas... qui sont vos clients à vous en tant que bureau de tendance ?
Effectivement, c'est pas du tout les designers qui sont nos clients, et je trouve ça absolument normal. C'est nos clients, ce sont des marques de distribution, des retailers, des industriels aussi, donc des fabricants de tissus, de fils, etc. Et nous, notre rôle, en fait, c'est de leur donner une vision beaucoup plus large des tendances, de ce qui se passe, et de les adapter en fait pour leur marque. C'est-à-dire de filtrer ce qui se passe dans le monde des tendances et de l'adapter en fait à ce que eux sont et à ce que leurs consommateurs veulent.
Finalement, vous l'aurez compris, même si on entend souvent que c'est un peu nous, le public, qui quelque part décidons de la mode, nous restons très largement aiguillés en général par toute une galaxie d'éclaireurs, une liberté de choix assez relative en somme. Merci à Loïs Guinu pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B, qui, comme vous le savez, mais je le dis quand même, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.